je vais lire Hébreux, chapitre 2, versets 11 à 14. C'est vrai? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour toutes les bonnes œuvres.
Amen. Merci, Karen. On peut l'applaudir. Hein. Merci, Karen. Que Dieu la bénisse. En tout cas, que Dieu nous fortifie dans sa grâce, puisque le thème du message, c'est un thème que Dieu ne cesse de nous rappeler ces dimanches derniers, la grâce. Donc ce magnifique texte de l'épître de Tite, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été enseignée, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On peut aussi lire, mes amis, car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Qu'y a-t-il de plus merveilleux que de découvrir la grâce de Dieu? Cette hymne à la grâce de Dieu que nous venons de lire est le cœur de l'enseignement de l'apôtre Paul. On peut même dire que c'est le cœur du message de l'évangile, car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. On peut aussi traduire la grâce de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus-Christ, lorsqu'il s'est manifesté, il a simplement manifesté la grâce de Dieu, au même titre que l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la compassion de Dieu, la fidélité de Dieu à l'égard de tous les hommes. Car la grâce de Dieu a été manifestée. Tout ce que l'apôtre Paul a pu écrire dans ses épîtres, tout ce que les apôtres ont pu écrire dans les épîtres, mes amis, concernant la vie des vieillards, la vie des femmes, la vie des jeunes gens, la vie des esclaves, la vie des serviteurs de Dieu, tout aboutit finalement à un même style de vie. Une vie identique pour chacun. Marcher derrière Jésus-Christ. Ce qui est extraordinaire, c'est que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, la personne même de Jésus-Christ, manifestée historiquement, nous amène à nous engager sur la voie du salut. Tout ce que les apôtres ont dit sur le comportement du chrétien dans l'Église et dans le monde, comment le chrétien doit se conduire en attendant la manifestation du grand Dieu Sauveur Jésus-Christ, se résume en un seul mot, mes amis. La grâce. Vous permettez que j'enlève ma veste? Merci. Merci. Là, il commence à faire chaud. Là. Et lorsqu'il y a la passion qui monte. Le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. C'est vrai que dans ce verset, on peut le lire de deux manières différentes. Il y a deux lectures. Il y a la première lecture qui dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Première lecture. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Et il y a l'autre lecture. Ah, c'est vrai, c'est tout. Il y a l'autre lecture qui dit « Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. » Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux lectures ? La première qui dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Et l'autre lecture qui dit « Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. » Nous allons voir que suivant la lecture que nous faisons, c'est deux sens différents. Il est évident que la grâce de Dieu est offerte à tout être humain. La Bible parle avec force que le sang de Jésus-Christ purifie tout pécheur qui demande grâce. Le message de l'Évangile affirme avec puissance que le sacrifice de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, apporte la paix avec Dieu à toute personne qui reconnaît son péché et qui demande pardon. Tout homme peut bénéficier de la grâce de Dieu. Peut bénéficier de la grâce ne veut pas dire bénéficier de la grâce. La grâce m'est offerte, mais je dois l'accepter. Ce n'est pas parce que je sais que je peux boire à la fontaine à droite puis à gauche si j'ai soif que ma soif sera étanchée. Pourquoi ? Parce qu'il y a la notion du démarche à faire. Il faut que j'aille à droite et à gauche boire de l'eau à la fontaine pour que ma soif soit étanchée. Je dois faire la démarche d'aller boire. Je peux bénéficier de la grâce, ne veut pas dire que je bénéficie de la grâce. Nous devons tous refuser la notion d'universalisme, d'universalisme. Il y a un seul Dieu qui existe. Il n'y en a pas 36, il y en a un seul. Mais il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Cette chanson, je reconnais que la mélodie, elle est belle. Qui dit, nous irons tous au paradis. La mélodie, elle est belle, mes amis. Des fois, je me surprends à chanter, à entonner ce chant. La mélodie, elle est belle, hein, qui dit, mais les paroles sont un peu difficiles. Je vois même des paroles blasphématoires, qui dit, que l'on soit béni ou maudit, que l'on soit méchant ou bon, nous irons tous au paradis. Ça, c'est faux, mes amis. Cette chanson, ce n'est pas le message de l'évangile de Jésus-Christ. Pardonnez-moi, je vais m'éponger. Merci. Récemment, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai eu 20 ans, donc... si on est à l'hiver, je vais plus voir. Hein. Nous n'irons pas tous au paradis, même si la grâce de Dieu permet à tout homme de bénéficier de la grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée pour tous les hommes. Dieu a manifesté cette grâce merveilleuse. Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui peut produire un pareil changement dans notre vie, mes amis? Si nous considérons ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes maintenant, que dirions-nous? Si nous examinons et analysons tout le chemin parcouru depuis notre conversion et le point où nous sommes arrivés aujourd'hui. Que dirions-nous? Si nous regardons les différentes étapes spirituelles que nous sommes parvenus, que nous avons fait avec Dieu jusqu'à aujourd'hui, que dirions-nous? Si nous étudions notre progression spirituelle depuis le jour où nous avons tenu la main du Seigneur et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, que dirions-nous? C'est la grâce. Mes amis, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si nous pouvons aujourd'hui venir adorer Dieu, c'est grâce à Dieu. Si nous pouvons avoir chaque jour un moment spirituel à méditer la parole de Dieu, à chanter ses louanges et aussi à prier, c'est la grâce de Dieu. Si nous pouvons nous comporter, on le verra tout à l'heure, d'une manière différente des autres, c'est la grâce de Dieu. Oui, mes amis, ce qui produit en nous ce changement, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu parce qu'elle a été manifestée. Tout est par grâce. Et rien que par la grâce de Dieu. Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et l'apôtre Paul a pu dire, ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est vrai, mes amis, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons bénir éternellement notre Dieu pour sa grâce. On pourrait dire que la grâce de Dieu s'est levée comme le soleil dans le ciel pour briller sur nous les hommes. D'ailleurs, il est dit, bon, ça c'est un texte que nous lisons à l'époque de Noël. Il est dit dans l'évangile que dans le pays où planait l'ombre de la mort, s'est levée la lumière. Je paraphrase. Je n'ai plus le texte en... Mais ça, vous l'avez compris. En tout cas, je nous renvoie à ces textes que nous lisons au moment de Noël. Et c'est vrai, mes amis. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est apparu, mais c'est comme le soleil qui s'est levé sur nous qui étions dans les ténèbres. D'ailleurs, il y a un chant que j'aime beaucoup, qui dit « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami fidèle !» Et qui dit aussi « Nous qui étions... allez, aidez-moi là. Nous qui étions dans l'ignorance et dans la crainte, quelque chose comme ça. Vas-y, mon ami. Hein? Voilà, en tout cas, nous qui étions dans l'ignorance et dans la peur, le Christ est venu. Sa grâce merveilleuse. Donc ce passage, dans Tite, chapitre 2, verset 11, c'est un très beau passage qui nous révèle la personnalité de Dieu. Dieu est le Dieu de la grâce. Il ne faut pas croire, mes amis, une seconde, que la grâce de Dieu s'est limitée uniquement à la venue de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, elle est partout et tout le temps. Mais ce qui est beau, c'est qu'en Jésus-Christ, Dieu a manifesté publiquement et glorieusement sa grâce. Mais nous sommes au bénéfice de cette grâce tous les jours, mes amis. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le verset aussi 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alors, on va aller doucement. Ce passage nous révèle, d'une part, la personnalité de Dieu, le Dieu de la grâce, mais aussi ce passage enseigne que quiconque accepte la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ doit vivre une vie chrétienne conséquente. Ce passage nous enseigne la personnalité de Dieu, un Dieu de la grâce, mais aussi que toute personne qui a choisi un jour de faire alliance avec Jésus-Christ doit avoir une vie conséquente. Et c'est pourquoi l'accent de ce texte, le cœur de ce passage que nous venons de lire, est mis sur le fait qu'il y a maintenant un salut pour tous et que la grâce de Dieu qui a apporté le salut au monde entier nous enseigne comment vivre en attendant le retour du Christ. Le chrétien est celui qui a reçu la grâce de Dieu dans son cœur, mais aussi qui vit une vie en attendant le retour du Seigneur. Auparavant, la loi a été limitée dans sa promulgation au seul peuple d'Israël. La loi a été donnée uniquement au peuple d'Israël. Par contre, en revanche, la grâce de Dieu, dans son étendue et sa portée, englobe tous les hommes. Tous les hommes de toutes les nations. Même si, dans son application, la grâce doit se limiter uniquement à ceux qui croient. Est-ce que vous voyez la différence? Dans l'Ancien Testament, la loi a été donnée uniquement au peuple d'Israël. Maintenant, en Jésus-Christ, la grâce de Dieu s'étend à toutes les nations. Tout le monde peut bénéficier de la grâce, même si, dans la réalité de la vie de tous les jours, c'est uniquement ceux qui croient en Jésus qui bénéficient de la grâce. Vous voyez la différence, mes amis? C'est pourquoi, comme je le disais tout à l'heure, je peux bénéficier ne veut pas dire que je bénéficie. D'ailleurs, c'est pourquoi, dans le verset 12, il est dit « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre le siècle présent, etc. » Il n'est pas écrit « Elle nous enseigne tous. » Vous voyez? Il n'est pas écrit que la grâce nous enseigne tous. Il est écrit « Elle nous enseigne. » Voulant dire qu'elle enseigne le croyant. Elle enseigne celui qui a mis sa confiance en Jésus-Christ. La grâce de Dieu enseigne celui qui a reçu la grâce. C'est pourquoi, malheureusement, nous n'irons pas tous au paradis, mais uniquement ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Ceux qui reçoivent ce salut que la grâce a apporté sont mis automatiquement à l'école que la grâce institue. Ceux qui ont reçu la grâce de Dieu sont à l'école de la grâce. Vous voyez, dans le système français, il est ce qu'il est. Chaque pays a son système d'éducation scolaire. En France, maintenant, corrigez-moi si je me trompe, maintenant, dès l'âge de... En tout cas, les cours sont obligatoires dès le CP. Un CP. En CP, tout enfant sur le territoire français doit aller à l'école. CP, donc, ça correspond à 6 ans. Voilà. Ça, c'est obligatoire. Bon, maintenant, on peut amener plus tôt, mais tant mieux. Mais en tout cas, ce qui est obligatoire, c'est le CP, dès l'âge de 6 ans. De 6 ans jusqu'au bac, l'enfant est à l'école. Bon, allez. En tout cas, jusqu'à... Allez. Jusqu'à 16 ans. Voilà, voilà. Donc, pendant 10 ans, voilà, hein, pendant 10 ans, l'enfant est tenu d'aller à l'école, c'est obligatoire. Lorsque je deviens chrétien, lorsque la grâce m'a saisi, lorsque j'ai saisi la grâce de Dieu, automatiquement, j'entre à l'école de la grâce. J'entre dans une école où la grâce va m'enseigner. La grâce enseigne ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Je peux bénéficier, ne pas dire que je bénéficie. Si maintenant, par la grâce de Dieu, je bénéficie de la grâce, c'est-à-dire que je suis entré à l'école de la grâce. Et cette école va m'enseigner des choses. Recevoir la grâce de Dieu par la foi implique automatiquement et naturellement un changement de vie opéré par les effets de la grâce agissant en moi. Juste un exemple que j'aime beaucoup, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Et le verset 12. Vous, 12 et 13, hein. Vous exhortons, vous consolons, vous conjurons de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Hein, l'apôtre ajoute cette parole qui agit en vous qui croyez. Ça veut dire simplement que dès l'instant où je suis entré à l'école de la grâce, automatiquement et naturellement, la grâce de Dieu agit en moi. Je dois voir les effets de la grâce de Dieu en moi. Il est inconcevable d'imaginer une vie chrétienne sans changement. Il est impensable de croire qu'en recevant la grâce de Dieu dans mon cœur, Dieu n'opérerait pas une transformation. C'est inimaginable. Si Dieu vient habiter dans mon cœur, automatiquement et naturellement, mes amis, je dois voir les effets dans ma vie. Celui qui se marie, globalement, prend des kilos. Globalement. Moi, j'en ai pris. Vous voyez, c'est naturel. Hein, c'est naturel. Par les années, on finit par prendre des kilos. Vous savez, il y a des effets automatiques et naturels. Celui qui s'exerce à la natation, un jour finit par avoir des records. C'est voilà. Si j'ai saisi la main de Dieu, mes amis, c'est normal, naturel et automatique que Dieu fasse son effet dans ma vie. Je ne peux pas imaginer le Dieu vivant, dont la parole est vivante, ne transformerait pas ma vie. La même grâce qui nous sauve en Jésus-Christ est la même grâce qui m'amène sur le chemin de la sanctification. Ce que vise la grâce de Dieu dans la vie de tout chrétien, c'est la sanctification. Et c'est pourquoi la notion de sainteté ne peut être comprise et vécue que par celui qui a reçu la grâce de Dieu. Allez dire à quelqu'un qui rejette la parole de l'évangile, allez dire à quelqu'un dont la vie est complètement étrangère à Dieu, la notion de sainteté, la notion de sanctification, elle ne comprendra pas. Il faut d'abord lui parler de la repentance, du péché, avant de lui parler de la sanctification. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 19. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À un non-croyant, on doit d'abord lui parler de la grâce de Dieu, du pardon, de la repentance, avant de lui parler de la sanctification. Pour vivre dans la sanctification, pour grandir dans la sainteté, pour marcher dans la crainte de l'Éternel, pour imiter la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce nous apprend à renoncer à certaines choses, mes amis. La grâce nous enseigne à renoncer à certaines choses, mais aussi à vivre autrement. C'est ce qu'on va voir rapidement. Que nous enseigne la grâce? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect négatif de la vie charnelle et aussi il y a l'aspect positif de la nouvelle vie. D'abord, enlever le mauvais avant de planter le bon. C'est pas beau ça? J'enlève d'abord les mauvaises herbes, après je plante, je sème la bonne semence. C'est comme ça, madame, hein? C'est comme ça, c'est vrai. Dieu enlève d'abord tout ce qui est mauvais, après il fait ce bon. Donc la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété. Autrement dit, tout ce qui est contraire à Dieu. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas avec mes propres forces, mais c'est la grâce de Dieu qui vit en moi. C'est par la grâce de Dieu que je peux renoncer à tout ce qui est contraire à la vie de Dieu. La grâce de Dieu, je peux aussi renoncer aux convoitises mondaines. Les convoitises mondaines, c'est tout ce qui, malheureusement, touche au péché sexuel, à la convoitise de la richesse, au désir de la puissance, du plaisir, de la célébrité mal placée et de tout ce qui est foncièrement mondain. La grâce de Dieu m'enseigne à renoncer à ces choses. Par contre, l'aspect positif, c'est que la grâce de Dieu m'enseigne à vivre autrement, d'une manière sage ou prudente ou avec tempérance. La tempérance, c'est-à-dire la modération, le détachement, le renoncement, tout ce qui se rapporte à nous-mêmes. C'est-à-dire que la grâce de Dieu m'enseigne à vivre une vie retenue avec réflexion. Je dois réfléchir sur ma manière de vivre. Et ça, ce n'est pas l'effet de mes propres forces, mais c'est l'effet de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu va m'enseigner à vivre ainsi. À vivre d'une manière juste. La justice, c'est quoi la justice? Mais c'est tout ce qui est, comme dirait la police, tout ce qui est juste, mais aussi tout ce qui relève de l'équité, de l'honnêteté, de la droiture. Avoir une vie juste auprès des hommes veut dire avoir une vie intègre, une vie droite. Ne pas chercher à tromper, ni tromper les autres. C'est vrai que nous pouvons facilement nous tromper, tromper les hommes. Ça, c'est notre nature naturelle. Mais la grâce de Dieu m'enseigne justement à ne pas vivre ainsi. Avoir une vie intègre, droite, droite. Dire la vérité, ne pas mentir. C'est ça la grâce de Dieu. Et aussi, la vie d'une manière pieuse. C'est quoi la piété, mes amis? C'est tout ce qui se rapporte à notre relation avec Dieu. La grâce de Dieu va m'enseigner à non seulement avoir la crainte de Dieu dans le cœur, mais à mettre Dieu à sa vraie place. Donner à Dieu la place qu'il mérite dans ma vie. En pratique, bien sûr. Elle m'enseigne à vivre ainsi. C'est la pratique. La grâce de Dieu m'enseigne à mettre Dieu à sa vraie place, à sa vraie dimension de ma vie. Ce n'est pas le Dieu du dimanche que j'adore, que je suis, mais c'est le Dieu, et j'aime beaucoup cette formule-là, le Dieu de celui qui s'occupe de la fourmi et du lion. Merci Miguel, merci. Donc, je suis appelé à donner à Dieu la place qu'il mérite, la place de l'Éternel, le grand Dieu, celui qui s'est manifesté en Jésus-Christ jusqu'à moi. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Mes amis, si j'arrive chaque jour à passer du temps avec le Seigneur, à chercher sa face, à chercher ce qu'il veut pour moi, mes amis, mais ça, c'est l'effet de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui opère cela dans ma vie. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, mes amis. C'est la grâce de Dieu. Parce que cette grâce, je l'ai reçue par la grâce de Dieu. Mais aussi une chose, c'est que cette grâce que j'ai reçue va m'enseigner à vivre une vie en attendant l'espérance de la gloire, de la manifestation du grand Dieu Sauveur Jésus-Christ. Le chrétien est celui qui est rempli d'espérance de la gloire, de la manifestation du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il n'existe pas de chrétien qui ait reçu la grâce de Dieu dans son cœur et qui n'ait pas cette espérance, mes amis. C'est la grâce de Dieu qui opère en moi cette merveilleuse espérance. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus-Christ. Je sais que pendant tout mon pèlerinage sur cette terre, je l'attends. Je l'attends, mes amis. C'est pourquoi tous n'iront pas au paradis. Uniquement ceux qui auront reçu la grâce de Dieu. Et ça, c'est l'opération, j'allais dire, miraculeuse, surnaturelle, mais tout simplement l'opération normale de la vie de celui qui marche avec Jésus-Christ. Parce que la grâce de Dieu habite en lui. Pour conclure, parce qu'il faut bien conclure, je dirais simplement, quiconque accepte la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ doit vivre en chrétien conséquent. Il rejette le mal et fait le bien en toute occasion. Et aussi, il considère le retour du Seigneur, donc cette bienheureuse espérance, comme quelque chose qui va stimuler ma vie de tous les jours. Qu'est-ce qui stimule ma vie, mes amis? Est-ce que c'est le salaire à la fin du mois? Bon, pourquoi pas. Mais des fois, le salaire peut être haut ou bas. Mais qu'est-ce qui stimule ma vie? Est-ce que c'est l'espérance de la gloire du grand Dieu Sauveur Jésus-Christ? Alors, mes amis, si c'est ça qui stimule ma vie, alors que Dieu soit béni et que Dieu nous aide à marcher chaque jour fidèlement avec lui, parce qu'il revient bientôt. Amen.